Chapitre 2. Comment surmonter les épreuves selon leurs origines? Dans nos vies, les épreuves sont aussi variées que complexes. Elles nous effrayent, nous découragent, nous fâchent, nous exaspèrent, mais aussi nous corrigent, nous transforment et nous rendent réceptifs aux autres. Le dictionnaire Larousse définit ainsi l'épreuve: chagrin, douleur, malheur qui frappe quelqu'un. Le mot « éprouver » quant à lui signifie « vérifier les qualités ou la valeur ». Quelqu'un a dit que l'épreuve pouvait nous rendre plus amers ou plus amènes, selon notre réaction à celle-ci. Les lignes qui suivent n'ont de loin pas la prétention de répondre à toutes les questions, ni de rejoindre toutes les situations. Néanmoins, discerner l'origine d'une épreuve peut être le premier pas vers une solution. Par souci de clarté, j'ai donc choisi de traiter le sujet en l'éclairant à sa source par un ou plusieurs textes bibliques concordants. Je vous encourage à entrecouper votre lecture de temps de réflexion personnelle. Les épreuves qui viennent de Dieu. Dieu éprouve notre obéissance. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il l'appela et Abraham répondit « Oui, je t'écoute ». Dieu reprit « Prends ton fils Isaac, ton fils unique que tu aimes tant. Va dans le pays de Morija, sur une montagne que je t'indiquerai, et là offre-le-moi en sacrifice. » Le lendemain, Abraham se leva tôt. Il fendit le bois pour le sacrifice, sella son âne et se mit en route vers le lieu que Dieu lui avait indiqué. Genèse 22, versets 1 à 3. Abraham est l'ami de Dieu. Le Seigneur lui a promis de bénir, par sa descendance, toutes les familles de la terre. Aux yeux du patriarche, Isaac représente un trésor inestimable, en tant que fils d'abord, mais aussi comme porteur d'une formidable promesse. Dieu demande à Abraham l'inconcevable, un acte d'obéissance qui dépasse l'entendement, lui offrir son fils bien-aimé en holocauste. Le lieu marqué exige plusieurs jours de marche. Abraham, une fois en route, ne faiblit pas. Sa compréhension est pourtant limitée. La seule explication qu'il trouve à cette contradiction absolue, « Dieu me demande de sacrifier mon fils, mais il me promet une descendance innombrable par lui », est qu'il ressuscitera, conformément à Hébreux 11, verset 19. La parole qu'il prononce, en laissant les serviteurs qui l'accompagnent au pied de la montagne, mérite toute notre attention. « Restez ici avec l'âne. Le jeune homme et moi nous irons là-haut pour adorer, puis nous reviendrons auprès de vous. » Genèse 22, verset 5. C'est au moment où son couteau se lève sur Isaac, qui est lié sur l'autel, que l'Éternel va lui dire « Abraham, Abraham, épargne l'enfant, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu respectes mon autorité, tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Genèse 22, versets 11 et 12. Je me suis souvent demandé comment Isaac, adolescent, avait pu se laisser ligoter par un homme déjà âgé, et, de plus, comment, par la suite, il n'était pas resté marqué et méfiant envers son propre père. La seule réponse satisfaisante me semble la suivante. Abraham lui a inculqué, dès sa plus tendre enfance, une vérité capitale, celle que Dieu est digne d'être aimé inconditionnellement. Il faut pour cela être prêt à lui donner ce qui nous est le plus cher au monde. Isaac s'était senti profondément aimé par son père. Sa confiance en lui était absolue. Il savait qu'Abraham connaissait Dieu intimement et que l'adoration qui lui était due pouvait être testée par un renoncement suprême. Il comprenait certainement qu'il aurait été bien plus facile à Abraham de mourir pour l'Éternel que de lui offrir celui qui comptait pour lui plus que tout, son fils. Quand son père a parlé d'adorer Dieu, puis l'a lié sur l'autel, Isaac savait que cet acte même était la preuve de toutes ses réalités. Il ne s'est pas débattu. Cette expérience ne l'a pas traumatisé, mais au contraire l'a conforté dans sa valeur aux yeux d'Abraham et de Dieu lui-même. Isaac nous donne certainement une leçon de confiance peu commune. Bien des siècles plus tard, non loin de là, le Fils unique de Dieu, portant le bois de son supplice, acceptera librement le sacrifice suprême, mourra à notre place et ressuscitera victorieux. Abraham nous apprend la vraie adoration, mettre Dieu au cœur de nos vies, lui donner la priorité sur nos enfants, notre conjoint, nos parents, notre travail, notre santé, notre argent, nos biens, notre temps, nos besoins, notre sexualité, nos pensées et nous-mêmes. S'il lui arrive de nous éprouver, la meilleure réponse sera l'adoration exprimée par notre obéissance. Dieu éprouve notre fidélité. Comme une éponge pressée révèle ce qu'elle contient, ainsi en est-il de nos motivations secrètes. Quand Dieu nous éprouve, elles sont révélées. Souvenez-vous de la longue marche que le Seigneur votre Dieu vous a imposée à travers le désert pendant 40 ans. Il vous a ainsi fait rencontrer des difficultés pour vous mettre à l'épreuve, afin de découvrir ce que vous aviez au fond du cœur et de savoir si oui ou non vous vouliez observer ses commandements. Deutéronome 8, verset 2. Dieu dépouille nos vies de ce qui est stérile ou de ce qui fait de l'ombre à l'essentiel. Je suis le vrai cep, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Jean 15, versets 1 à 2 et 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Dieu doit parfois nous corriger ou nous juger. Ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Lamentations, chapitre 3, verset 33. Si vous n'êtes pas corrigé comme le sont tous ses fils, alors vous n'êtes pas de vrais fils, mais des enfants illégitimes. Hébreux 12, verset 8. Dieu, dans sa nature, préfère pardonner plutôt que de juger. Il ne se dérobe cependant pas pour autant à son devoir, et nous devrions méditer les avertissements de sa parole, à l'exemple de ce qui suit. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. En Corinthiens 11, verset 31. L'Éternel suscita un ennemi à Salomon, Hadad, l'Édomite, de la race royale d'Édom. 1 Roi 11, verset 14. Le Seigneur infligea une grave maladie à Azaria. Le roi devint lépreux et le resta jusqu'à sa mort. 2 Rois 15, verset 5, conformément à 1 Corinthiens 11, verset 9 à 30. Dieu résiste aux orgueilleux. Jacques 4, verset 6. Si quelqu'un veut avoir une vie vraiment pénible, il lui suffit de cultiver l'orgueil. Quand un ami nous résiste, ce n'est pas agréable. Quand c'est notre patron, c'est pire. Et si c'est notre conjoint, la situation peut devenir dramatique. Mais quand c'est Dieu, on se prépare des années de cauchemar. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Matthieu 23, verset 12. Quiconque signifie n'importe qui. Un enfant, un chef d'État, un mendiant, un médecin, un malade, un artiste, un adolescent, un vieillard, un pasteur, vous et moi. Dieu ne supporte pas l'orgueil et il s'est engagé à le combattre. On ne parle pas ici d'une vantardise superficielle ou d'une fierté légitime, mais bien d'une féroce opinion surfaite de soi, de ses capacités, de ses droits, de sa position qui répand une odeur malfaisante de prétention, de dureté, d'intransigeance, et qui écarte ou écrase tout sur son passage. En voyageant, je rencontre beaucoup de monde, et au fil des ans, je vois les choses évoluer. En côtoyant telle personne, telle communauté, telle dénomination, telle région, j'éprouve parfois un malaise, mêlé de tristesse, en constatant que tant d'épreuves humiliantes, d'années de souffrance, d'énergie gaspillée auraient pu être évitées par un changement de comportement. Nous devons tous y veiller, moi le premier. Mais il serait injuste et même cruel dans le sujet traité de ne pas souligner ce point capital. De même qu'un homme orgueilleux qui épouse une femme ayant la même tendance se prépare à des affrontements incessants et épuisants, de même celui qui entretient une attitude orgueilleuse aura des combats sans nombre. Chacun a le choix entre l'humilité et l'humiliation. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. 1 Pierre 5, verset 6. L'homme humble se soumet au Seigneur. Il est récompensé par la prospérité, la considération et une longue vie. Proverbe 22, verset 4. Quand Dieu s'explique. Quelqu'un a dit, nous sommes dans le monde des pourquoi et nous allons dans celui des parce que. Dans bien des épreuves, Dieu reste silencieux. Nous pensons naturellement qu'une explication nous ferait du bien, mais c'est parfois le contraire. Il gardera le silence dans son amour pour toi. Sophonie 3, verset 17. Nous avons cependant par la vie du roi David un exemple de pourquoi et de parce que riche d'enseignements. Il s'agit de l'épisode où celui-ci, entouré de son peuple, ramène l'arche de l'Alliance, appelée aussi coffre sacré, vers Jérusalem. La foule est immense, l'atmosphère festive, la louange bat son plein, et Dieu semble honoré. David et tous les Israélites exprimaient leur joie devant Dieu de toute leur force. Ils chantaient avec accompagnement de lyre, de harpe, de tambourin, de cymbales et de trompettes. Lorsqu'on arriva près de l'aire de Kidon, les bœufs faillirent faire tomber le coffre sacré. Uzza essaya de la main de le retenir. Alors le Seigneur se mit en colère contre lui et le punit d'avoir osé toucher le coffre. Uzza mourut là, en présence du Seigneur. David fut scandalisé de voir que le Seigneur avait porté ce coup mortel à Uzza. Ce jour-là, il eut peur de Dieu. 1 Chronique 13, versets 8 à 12. Uzza paraît réagir comme tout bon citoyen l'aurait fait. Il est concerné par la sauvegarde de l'arche, l'un des objets les plus précieux en Israël. Son geste, contre toute attente, ne lui vaut pas l'approbation de Dieu, mais provoque sa mort. Pourquoi? À première vue, c'est absolument incompréhensible et, apparemment, tellement injuste. David lui-même est choqué, bouleversé et certainement rempli de pourquoi. Comment comprendra-t-il? Il fait des recherches et réalise que nul ne doit toucher le coffre sacré. Il doit être transporté au moyen de barres de fer et par les Lévites uniquement. Quelque temps plus tard, il reprend le projet et cette fois convoque ceux qui ont reçu la fonction de porter l'arche sur leurs épaules. Il leur dit, « Vous qui êtes des chefs de famille lévitiques, purifiez-vous, ainsi que les membres de vos familles, puis allez chercher le coffre du Seigneur, du Dieu d'Israël, pour l'amener à l'endroit que j'ai préparé pour lui. La première fois, vous n'étiez pas là, et à cause de cela, le Seigneur notre Dieu nous a porté un coup mortel. » En effet, nous ne l'avions pas consulté selon les règles. 1 Chronique 15, versets 12 à 13. Conclusion. Adorer Dieu en lui obéissant, nous laisser transformer par lui, chercher sa pensée en nous examinant nous-mêmes à sa lumière, et confesser tout orgueil n'a pas pour but de nous rendre austères et encore moins religieux. Dieu sait récompenser ses fils et ses filles. Ses promesses sont enthousiasmantes. Bien des chrétiens se croient spirituels en acceptant les épreuves et en refusant, en théorie, les récompenses. Cependant, la sage formation de notre Père comporte les deux aspects. Heureux l'homme qui endure l'épreuve, parce que, une fois testé, il recevra la couronne de la vie promise à ceux qui l'aiment. Jacques 1, verset 12. Les épreuves qui viennent de soi-même. Si quelqu'un est tenté, qu'il ne dise pas « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut pas être tenté de mal faire, et il ne tente lui-même personne. En réalité, tout être humain est tenté quand il se laisse entraîner et prendre au piège par ses propres désirs. Ensuite, tout mauvais désir conçoit et donne naissance au péché, et quand le péché est pleinement développé, il engendre la mort. Jacques 1, verset 13 à 15. Nos attitudes et nos actions incorrectes produisent de mauvais fruits qui engendrent toutes sortes de difficultés. Lot, neveu d'Abraham, en est une illustration. Après un bref rappel de son histoire, Genèse 13, 1 à 13, 18, versets 16 à 33 et 19. Nous regarderons les leçons à en tirer. Lot est un riche éleveur qui se déplace aux côtés de son oncle Abram, appelé par la suite Abraham. Leurs troupeaux deviennent bientôt si considérables et leurs biens si abondants qu'ils ne peuvent plus demeurer ensemble. Abram donne alors à son neveu le choix de la région qu'il désire occuper. Lot contemple la plaine du Jourdain qui s'étend devant lui, tel un jardin verdoyant. Il choisit de s'y rendre avec tout son clan et dresse ses tentes jusqu'aux portes de Sodome. Cette ville a une réputation tellement mauvaise que Dieu décide de la juger. Mais Abram, dans son intercession pour elle, plaidera en disant: feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Dieu lui donne l'assurance que, s'il n'y trouve que 10 justes, il épargnera toute la population à cause de ceux-ci. Deux envoyés célestes arrivent ce soir-là à Sodome. Lot, qui est assis à l'entrée de la ville, les aperçoit. Il va au-devant d'eux, se prosterne, face contre terre, et leur dit: voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit. Il insiste beaucoup, les emmène chez lui et leur sert un festin. Mais ils ne sont pas encore couchés que les hommes de la ville, des jeunes gens jusqu'aux vieillards, encerclent la maison et exigent de Lot de leur livrer ses hôtes. Ils veulent en faire rien de moins que leurs jouets sexuels. Le maître des lieux sort, ferme la porte derrière lui et leur propose un marché. Ses deux filles vierges en échange de la sauvegarde de ses invités. La populace ne veut rien entendre. Furieuse, elle promet à Lot de lui faire subir des outrages pires qu'à ses convives. Puis, le bousculant violemment, elle s'avance pour enfoncer la porte. À cet instant, les anges empoignent Lot, le tirent à l'intérieur et frappent d'aveuglement la foule qui cherchera en vain l'entrée de la maison. S'adressant à Lot, ils lui disent: qu'y as-tu encore ici? Gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu, car nous allons le détruire. Lot va trouver ses futurs gendres. À leurs yeux, il paraît plaisanter. Dès l'aube, les anges insistent auprès de Lot. Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Mais comme il hésite encore, les messagers le saisissent par la main, ainsi que sa femme et ses deux filles, et les entraînent hors de la ville. L'un d'eux lui dit: sauve-toi vers la montagne, ne regarde pas derrière toi, ne t'arrête pas. Mais Lot tergiverse. Il n'aime peut-être pas l'escalade et plaide auprès des anges pour se réfugier dans une bourgade appelée Soar, qui, de ce fait, sera laissée intacte. Malgré les avertissements, la femme de Lot regarde en arrière. Elle se fait alors probablement prendre dans le cataclysme, puisqu'elle est transformée en statue de sel. Sodome est détruite. Lot a peur de rester à Soar. Il s'établit dans la montagne et vient habiter une caverne, lui et ses deux filles. Au bout d'un certain temps, l'aînée dit à la plus jeune: notre père est vieux, et il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous, selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père, et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. Elles mettent aussitôt leur plan en action, et cette nuit-là, l'aînée couche avec lui. Il ne s'aperçoit ni quand elle se couche, ni quand elle se lève. La nuit suivante, le même scénario se reproduit, cette fois avec la cadette. Et Lot n'en est pas plus conscient que la nuit précédente. Les deux filles deviennent enceintes de leur père. L'aînée enfantera un fils qui deviendra l'ancêtre des Moabites, et la plus jeune enfantera celui qui deviendra l'ancêtre des Ammonites. Lot a de grandes qualités. Il serait injuste de ne pas le dire. La vérité biblique nous touche parce qu'elle est authentique. Une personnalité est pleine de nuances, c'est pourquoi les caricatures ne reflètent que rarement nos cœurs. Lot a appris plein de bonnes choses au contact d'Abraham. Il est généreux, d'une extrême gentillesse et d'une hospitalité hors du commun. Il demeure respectueux même face à ses agresseurs. Il a certainement cherché à concilier ses intérêts économiques et spirituels, sans succès. Son âme est tourmentée journellement au contact de la société pervertie de Sodome. Il sera sauvé miraculeusement et reçoit le titre de juste dans l'épître de Pierre. Dieu a délivré Lot, cet homme de bien écœuré par les pratiques immorales de ces hommes pervers. Ce juste vivait au milieu d'eux, certes, mais son âme intègre était torturée à longueur de journée par les agissements criminels qu'il lui fallait voir et entendre. 2 Pierre 2, versets 7 à 8. Malgré ses qualités bien réelles, Lot va connaître une déchéance dramatique. De riche éleveur comblé à la tête d'un clan important, il va devenir un vieillard isolé et manipulé, réfugié au fond d'une caverne. Pourquoi? Il fait de mauvais choix. Les choix de nos valeurs morales, de notre conjoint, de notre profession et de notre lieu de vie sont parmi ceux qui portent le plus à conséquence. Malgré l'éducation et la formation reçues au contact d'Abraham, Lot va se laisser diriger par son regard. Les gens de Sodome vivaient dans un petit paradis naturel, et ils étaient probablement prospères, mais ils avaient une conduite abominable. La recherche de la pensée de Dieu, ou pour le moins les conseils d'Abraham, aurait dû garder Lot de s'installer à cet endroit. Abraham lui avait dit, « Tu as tout le pays devant toi. Séparons-nous. Si tu vas vers le nord, j'irai vers le sud. Si tu vas vers le sud, j'irai vers le nord. » Lot regarda. Il vit que toute la région du Jourdain était bien arrosée. Elle était comme un paradis, comme la vallée du Nil. Lot choisit pour lui la région du Jourdain et déplaça son campement vers l'est. C'est ainsi qu'ils se séparèrent. Genèse 13, versets 9 à 11. Ses oreilles ont entendu nord ou sud, mais ses yeux l'ont attiré vers l'est. Quelque temps après, le roi de Sodome perdra une bataille. Cette défaite aura pour conséquence que Lot, avec famille et biens, sera enlevé et fait prisonnier. Abraham mobilisera ses hommes et le délivrera, récupérant pour lui toutes ses possessions. Malgré cet épisode, Genèse 14, qui aurait pu lui servir d'avertissement, Lot se réinstalle à Sodome. Comme nombre de personnes aujourd'hui, il ne tire pas les leçons du passé et ne semble pas en saisir la gravité. Il dépend de la prière et de la sanctification des autres. Quand Dieu détruisit les villes de cette région où habitait Lot, il pensa à Abraham et il permit à Lot d'échapper à ce bouleversement. Heureusement pour Lot, il y a Abraham, les anges et un Dieu bienveillant. Tout un comité de sauvetage est nécessaire pour le tirer d'affaire. Communication, intercession, visitation, protection, exhortation et prise en charge physique. Lot n'influencera pas son milieu, mais c'est ce dernier qui l'influencera. À l'opposé de Joseph, contraint à l'exode en Égypte, ou de Jonas, envoyé par Dieu à Ninive, qui, tous deux, verront la lumière triompher des ténèbres, Lot, par ses initiatives purement humaines, n'aura ni onction ni autorité face à Sodome. Il manque de discernement par rapport aux enjeux spirituels. Il va au-devant de la mafia avec un bouquet de fleurs. « Je vous en prie », semble être sa phrase favorite. Ce sont les anges qui doivent exercer la fermeté du Saint-Esprit. Bien entendu, personne n'aimerait avoir une meute de dépravés sexuels à sa porte, mais on se demande où sont passés ses nombreux serviteurs. Sa proposition d'offrir ses deux filles en pâture est tout aussi édifiante que la solution trouvée par elle pour assurer la postérité familiale. Le parfum de la culture sodomique, même à faible dose, se fait sentir et ses solutions charnelles n'impressionnent guère les ténèbres. Il est superficiel dans l'évangélisation. Lot n'est pas reconnu comme un homme de Dieu par la nouvelle génération. Il n'a pas transmis sa précieuse connaissance. Quand il répète les paroles des anges à ses futurs gendres, il n'a aucune autorité. Il paraît plaisanter. Peut-être ont-ils pensé ou répondu « Ah, ce vieux Lot, voilà qu'il fait une crise mystique et croit que le ciel va nous tomber sur la tête. » Retourne te coucher, nous en reparlerons demain. on pressent une grande déperdition spirituelle entre ces deux générations. L'attitude de ces filles ne fera que le confirmer. Il abuse de la grâce. Il est égocentrique, nonchalant, craintif. Fuis pour sauver ta vie. Ne regarde pas en arrière. Ne t'attarde nulle part dans la région. Réfugie-toi dans la montagne si tu veux rester en vie. Dieu, parfois, est pressé. Lot est nonchalant. On croit à tort que toute action lente, bien pesée, bien pensée, bien échelonnée est toujours sage et conforme à la volonté de Dieu. Ici, nous voyons des anges hâtifs, dynamiques et entreprenants. Si Israël, par exemple, a tourné en rond durant 40 ans dans le désert, ce n'est pas que Dieu s'est plu à jouer les prolongations, mais parce que Josué et Caleb, espions fidèles et courageux, n'ont pas été écoutés. Lot répondit, « Non, Seigneur, ce n'est pas possible. Bien sûr, j'ai bénéficié de ta bienveillance et tu m'as fait une grande faveur en me sauvant la vie. Mais moi, je ne pourrai pas fuir jusque dans la montagne avant que le malheur m'atteigne et je mourrai. Tu vois cette petite ville? Elle est assez proche pour que je puisse courir jusque-là. Laisse-moi m'y réfugier, puisqu'elle est si petite, et j'aurai la vie sauve. » Lot ne coopère en rien. Il est sauvé comme au travers du feu, et perd cette fois tous ses biens par pure négligence. Il n'est nullement concerné par le sort de Soar ou la gravité de la situation, mais seulement par lui-même. Manipulateur, doucereux, il ne s'inquiète ni des plans ni de la volonté de Dieu. De sa femme, on ne sait qu'une chose. Les anges lui demandent de ne pas regarder en arrière, et elle le fait. Il n'y a vraiment rien d'original dans la désobéissance. Au lieu de s'humilier, il fuit la repentance et ses responsabilités. Lot avait peur de rester à Soar. Il quitta la ville et alla vivre dans la montagne. Ses deux filles l'accompagnèrent. Il s'installa avec elles dans une grotte. Un peu superstitieux, il se méfie maintenant des villes, préférant désormais un toit de granit ou de roches épaisses. Voici donc un authentique homme des cavernes. Non seulement on sait qu'il a existé, mais de plus on connaît son nom. Quant aux femmes des cavernes, pas de doute non plus. Tous trois semblent beaucoup s'ennuyer. Ont-ils, eux aussi, pris plaisir à peindre sur les murs? Dans ce cas, ce fut à la main et sans spray. Ces derniers sont apparus bien plus tard, quand les mentalités se sont dégradées. Par ce moyen, on a alors surtout décoré les murs des autres. Abraham n'aurait-il pas accueilli Lot les bras grands ouverts? Ne lui aurait-il pas offert une place honorable, une heureuse vieillesse, et donné à ses petites nièces tout loisir de fonder des familles bénies? Il est terriblement influençable. Ses filles décident de l'enivrer, et, sans aucune difficulté, elles parviennent à leur fin. Lot n'est pas simplement éméché, il est tellement ivre qu'il fait l'amour avec sa propre fille et ne se souvient de rien au matin. Le soir venu, sa docilité proverbiale permet à la cadette d'imiter sa sœur aînée sans provoquer de sa part le moindre froncement de sourcils. Conclusion. Abraham et Lot sont deux hommes qui ont le même Dieu, vivent à la même époque, sont de la même famille, partagent les mêmes richesses et pratiquent le même métier. Le premier n'est pas parfait, mais c'est un homme de foi obéissant, un ami de Dieu qui marquera l'histoire. Le second, avec des qualités certaines, devient égocentrique, nonchalant et servile. Il a une vie familiale triste et des relations sociales pénibles. Ses enfants seront mondains et ses petits-enfants, psaume 83, verset 9, deviendront ennemis de Dieu. Il est sauvé de justesse, mais reste un exemple à ne pas suivre. La vie de Lot, sobrement exposée par l'Écriture, est l'occasion pour nous de reconsacrer à Dieu nos choix, nos habitudes, nos finances, nos fréquentations, notre langage et d'autres aspects encore. C'est aussi une exhortation à détruire toute culture sodomique qui aurait pu s'introduire dans notre maison et surtout dans notre cœur. Notre vie portera un fruit succulent et durable si nous cultivons l'amitié avec Dieu. De multiples épreuves nous seront épargnées, non pas toutes, mais celles qui sont engendrées par une vie partagée, et ce ne sont pas les moindres. L'homme sensé suit la route qui monte vers la vie. Il évite celle qui descend vers la mort. Proverbe 15, verset 24. Les épreuves qui viennent des autres. Dans le premier chapitre, nous nous sommes largement penchés sur la vie de Joseph, pour lequel la majorité des épreuves sont venues de son entourage. Quant aux épreuves qui viennent des autres, en réaction à notre mauvaise conduite, elles se rapportent plutôt aux pages qui précèdent. Pour ces raisons, nous ne ferons ici que compléter le sujet. Qu'aucun d'entre vous n'ait à souffrir comme meurtrier, voleur ou malfaiteur, ou pour s'être mêlé des affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre, parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte, qu'il remercie plutôt Dieu de pouvoir porter ce nom. 1 Pierre 4, versets 15 et 16. Ceux qui tuent le corps. Le roi Manassé fit périr de si nombreuses personnes innocentes que la ville de Jérusalem fut remplie de sang. 2 Rois 21, verset 16. Jean-Baptiste est mort, décapité, pour satisfaire aux caprices d'une jeune écervelée et de sa mère animée de vengeance. Étienne a été lapidé et Jacques mis à mort lors de violentes persécutions contre l'Église naissante. Matthieu 14, verset 8, Actes 7, verset 59, Actes 12, verset 2. Ces situations montrent sans embâge que l'opposition contre ceux qui œuvrent pour le bien est loin d'être théorique ou fictive. Les soldats de Christ, et parmi les meilleurs, meurent au combat en grand nombre, hier comme aujourd'hui. Devrions-nous le nier? Ce serait une politique de l'autruche, déshonnête et malsaine. Devons-nous l'accepter passivement? Évidemment non. L'apôtre Pierre, dont le nom aurait pu compléter la liste citée plus haut, sera miraculeusement délivré, ses amis luttant jour et nuit dans de ferventes prières à son égard. Devons-nous spiritualiser à outrance ces situations, claironnant des slogans comme « L'ennemi fait une œuvre qui le trompe », gauchement explicatif pour ne pas dire expéditif? Je ne le pense pas. Le libre arbitre de l'homme, géré avec méchanceté, est une réalité et la souffrance de Dieu face à cela également. Jésus, pleurant devant la dureté des habitants de Jérusalem, exaspéré parfois par ses propres disciples, ou encore en colère contre ceux qui ferment réellement le royaume de Dieu aux hommes, ne semble approuver en rien cette théologie simplificatrice. Elle se révèle déroutante et parfois blessante pour ceux qui se trouvent au cœur du combat. Si nos ennemis ne pouvaient marquer que des autogôles, ils seraient en finalité nos amis, ou, pour le moins, de secrets alliés. C'est le piège et la faiblesse de ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas admettre la réalité finale d'une volonté maléfique réellement opposée à celle de Dieu. Des pays entiers ont vu l'Église anéantie durant plusieurs siècles. Des ministères puissants ont disparu sans être remplacés. Des continents ont été privés bien trop longtemps de l'Évangile. Était-ce la volonté secrète de Dieu? Il faut vraiment être bien installé dans un pays paisible qui garantit la liberté de ses citoyens pour le croire. Heureusement, la Bible parle de changeurs de société, à l'instar de Moïse, des juges, d'Esther et autres Néhémie, qui ne demandent qu'à être imités. Ce sera souvent au péril de leur vie. D'autres embûches communes diverses. Un conflit épuisant avec un proche parent, un collègue au caractère pénible. Un esprit de contradiction. Notre conjoint semble en être affecté, et notre ado le cultiver. Un esprit de compétition. La classe, l'atelier, le bureau en sont imprégnés. Chacun se croit obligé de se situer au-dessus ou au-dessous des autres. Des insomnies provoquées par des voisins bruyants. Votre repos, vos nerfs, votre santé, votre morale en sont perturbées. Une humiliation, des remarques blessantes, calomnieuses ou venimeuses vous sont adressées. Une perte de position sociale, une maladie, un accident ou un suicide qui survient parmi vos proches. Une amitié brisée. Des menaces voilées ou ouvertes vous frappent. de l'argent qu'on vous doit. Après avoir écrit, attendu, téléphoné, attendu encore, vu la personne et passé par plusieurs phases d'amertume et de pardon, la situation n'est toujours pas réglée. La liste est aussi variée qu'infinie. Comment y faire face? Puisque vous n'avez pas une encyclopédie entre vos mains pour y répondre, mais un livre d'une centaine de pages, je vous propose, si une telle situation vous concerne, d'y réfléchir aidé des questions suivantes. Y a-t-il un exemple biblique, historique, pour m'éclairer? Ai-je demandé conseil à un responsable spirituel? La tendance naturelle est malheureuse, au cœur de la tourmente est de s'isoler. Rappelez-vous qu'un berger est particulièrement utile quand le loup attaque. Ai-je communiqué clairement, avec respect et fermeté, avec les personnes concernées? Une franche explication est souvent meilleure que 3 années de pensées ressassées et troubles. Ai-je baigné la situation dans la prière? Dois-je appeler à l'aide, médecin, système social, police? Si Paul condamne les procès laïcs entre disciples, il affirme aussi que les autorités civiles portent l'épée pour protéger les citoyens, chrétiens ou non, des malfaiteurs, conformément à Romains 13, versets 3 à 4. Quelques pensées de l'Écriture en rapport avec le sujet. Répondre dans l'esprit opposé. Une réponse douce calme la fureur. Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue avant que la dispute s'anime, retire-toi. Confronter. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Instruire, éduquer. Donne de bonnes habitudes à l'enfant dès l'entrée de sa vie. Il les conservera jusque dans sa vieillesse. Ne pas tirer de conclusions hâtives. Ne portez de jugement contre personne, et Dieu ne vous jugera pas non plus. Ne condamnez pas les autres, et Dieu ne vous condamnera pas. Pardonnez aux autres, et Dieu vous pardonnera. Évitez les épreuves aux autres. Gens de Jérusalem, sortez, sortez vite de la ville. Ouvrez la voie à ceux qui reviennent. Bouchez les trous de la chaussée, débarrassez-la des pierres et balisez la route à l'intention des peuples. Recherchez l'approbation divine. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Agir avec amour et vérité, même envers ses ennemis. Celui qui couvre une faute cherche l'amour. Moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Proverbe 15, verset 1. 17, verset 14. Matthieu 18, verset 15. Proverbe 22, verset 6. Luc 6, verset 37. Ésaïe 62, verset 10. Proverbe 16, verset 7. 17, verset 9. Matthieu 5, verset 4. Les épreuves qui viennent du péché. Le jour où le péché et la mort seront définitivement engloutis, l'univers tout entier sera rempli de la gloire de Dieu. Satan et ses disciples seront, quant à eux, cantonnés à l'étang de feu. Matthieu 25, verset 41. La mort, apparue dans le monde comme salaire aux conséquences du péché, sera le dernier ennemi à être vaincu. Nous vivons pour l'instant dans cette immense parenthèse où le péché fait encore ses ravages. Dans les multiples équipes missionnaires que j'ai conduites ou auxquelles j'ai participé, j'ai constaté que la majorité des épreuves, toutes catégories confondues, venaient de nos propres paroles et de notre conduite. Contrairement à ce que l'on pense généralement, les plus grandes difficultés ne viennent pas des serpents, des araignées ou des moustiques, du climat, de la fatigue ou des maladies, des déficits financiers, des pannes diverses ou de l'opposition des ennemis de l'Évangile, mais de ce qui sort de nos propres bouches et où émanent de nos attitudes. Les conflits et les problèmes relationnels sont les raisons premières du découragement des missionnaires et, pour certains, de l'abandon de leur champ d'action. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Elles profèrent bénédiction et malédiction. Jacques, dans sa lettre, avertit les chrétiens qu'elle peut devenir un venin mortel. Proverbe 18, verset 21. Jacques 3, versets 8 à 11. Quelqu'un a dit: il y a plus de meurtres par la langue que par les fusils et les canons. C'est pourquoi celui qui veille sur sa bouche se garde des angoisses. Proverbe 21, verset 23. Paul, quant à lui, nous exhorte prioritairement, et avec raison, à être des modèles en parole et en conduite. 1 Timothée 4, verset 12 à 16. Nous nous limiterons ici à ces deux aspects en suivant le conseil de l'apôtre. Les paroles qui bénissent. Bénir. Nous avons le droit de dire du bien de quelqu'un, même derrière son dos. Encourager, aider, conseiller, enseigner et créer. Nos paroles ont un pouvoir créateur. Le courage, la consolation, l'idée nouvelle, la solution, l'espérance, la joie et même la guérison peuvent sortir de notre bouche. Prophétiser. Mettre notre langue au service de l'Éternel. En fait, les 9 dons de l'Esprit sont en relation directe avec elle, conformément à 1 Corinthiens 12, versets 7 à 10. Évangéliser. Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Romains 10, verset 14. Le salut de l'humanité dépend aussi d'une langue obéissante et sanctifiée. Paul donne la raison profonde de son exhortation à Timothée. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Le salut vient de ce que l'on entend. 1 Timothée 4, verset 16, Romains 10, verset 17. Confessez les choses positivement. Connaissez-vous l'histoire de ce fabricant de chaussures qui envoya 2 de ses émissaires prospecter indépendamment dans une peuplade lointaine? Quelques jours après, il reçut un message de chacun d'eux. Le premier déclarait: abandon du projet, ici personne ne porte de chaussures. Le second disait: envoyez immédiatement crédit et ouvriers, ici personne ne porte encore de chaussures. Le premier avait un regard pessimiste, qu'il aurait bien entendu défendu comme réaliste. La vision du second gestionnaire était aux antipodes. Enthousiaste, il voyait là l'occasion inespérée de chausser une population tout entière. Les gens négatifs sont persuadés de regarder la réalité en face, mais leurs propos sentent la mort. Nous pouvons compléter cette liste avec des domaines de poids tels que prier, édifier, ou tout simplement communiquer avec amour. Les paroles qui font mal. La médisance. En quelques phrases, elle salit, parfois pour plusieurs années, l'image que nous avons de quelqu'un. Les murmures. Le peuple d'Israël venait de voir la mer se fondre et former comme des remparts pour le laisser passer à sec, et la puissance de Pharaon brisée. Pourtant, au lieu de demander une bonne nourriture à ce Dieu protecteur, il murmure, le soupçonnant de l'avoir emmené au désert pour le faire mourir de faim. Il existe pourtant une bonne manière de communiquer ses besoins. Les veuves négligées sur le plan de la nourriture dans l'Église naissante n'ont pas été réprimandées, mais au contraire, se sont vues servies par 7 hommes sages nommés spécialement pour remédier à cette injustice. Les querelles. Se quereller avec un mort est non seulement inintéressant, mais impossible, car il ne répond pas. Être mort à la querelle est une vertu à développer, conformément à 2 Timothée 2, 24. Les paroles grossières, elles salissent, en fait, celui qui les prononce. Les paroles inutiles. Avez-vous déjà été coincé dans un véhicule à côté de quelqu'un parlant sans arrêt? C'est une torture que je ne souhaite à personne. Le silence et la sensibilité en ce domaine sont des bienfaits précieux. Les mensonges. Tromperies et inventions mises à part, les exagérations quand on cherche à défendre son opinion sont une tentation réelle dans nombre de conversations et comités. Les paroles méchantes, méprisantes, hautaines, Proverbes 6, 16 à 19, elles sont haïes de Dieu. Les plaisanteries, Pourtant, Dieu a de l'humour. Il suffit de regarder des chatons ou des canetons pour s'en convaincre. Il aimerait que nous soyons toujours joyeux. Que veut donc dire Paul quand il nous demande de nous abstenir de plaisanteries? Ce passage parle de joie blessante, c'est-à-dire d'un humour qui cache des pointes méchantes ou humiliantes. C'est le cas pour une foule de plaisanteries sur les nationalités, les régions et les sexes. Tout le monde rit, ou du moins fait semblant, mais les blessures sont bien réelles. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. 1 Pierre 3, verset 10. Notre conduite confirme ou détruit nos paroles. Dans certains lieux de réception, on peut lire: c'est bien agréable d'être important, mais c'est bien plus important d'être agréable. D'autres l'ont exprimé ainsi: quand cet homme monte en chair, on aimerait qu'il n'en redescende plus, tellement il parle bien. Mais quand il en redescend, on aimerait qu'il n'y remonte plus, tellement il se conduit mal. Il n'est pas nécessaire d'être prédicateur pour qu'une telle citation nous concerne. Soulignons quelques situations de la vie courante. La polyvalence ou la disponibilité. Un jeune venait d'achever son école de disciple. À la fin du culte, son pasteur s'adresse à lui. Veux-tu ranger les cantiques? Je prierai à ce sujet. Pendant que tu pries, je les rangerai moi-même. La politesse. La vraie politesse, celle qui vient du cœur, aime honorer son prochain. Tandis que la politesse de façade, celle qui n'est là que pour sa propre gloriole, s'estompe rapidement pour faire place aux comparaisons, revendications et conflits. Les horaires. Arriver en retard, c'est de l'orgueil. Don Stephens. Cela sous-entend que mon temps est plus précieux que le temps des autres. Je peux faire encore ceci ou cela. Les autres peuvent bien m'attendre. J'ai observé que, dans plusieurs pays où il est communément admis que d'arriver à l'heure n'est ni culturel ni important, il existe des lois bien précises sur le sujet. Le subordonné doit toujours attendre son supérieur et jamais l'inverse. Les élèves qui arrivent ne serait-ce que 30 secondes en retard, qu'ils aient 6 ou 18 ans, garçons ou filles, reçoivent une correction immédiate qui fait frémir. J'ai encore relevé que, dans la même ville, on pouvait voir une église bondée 3 minutes avant l'heure du culte pour accueillir le pasteur et la chorale qui arrivent en cortège, alors que 200 mètres plus loin, dans une autre communauté, les fidèles se présentent à la queue leu-leu durant plus de 60 minutes après le début de la rencontre. Jésus nous dit que certaines personnes arriveront en retard même aux noces de l'agneau. Les finances. Le pauvre et le riche sont appelés à être généreux. La fidélité pour rendre et rendre en bon état ce que l'on emprunte et payer ce que l'on doit sans se faire prier est une pratique de savoir-vivre élémentaire. Elle épargne des épreuves sans nombre à notre prochain. L'obéissance. Nous savons tous, de manière innée, comment encourager ou saboter comités, répétitions, réunions de prière ou de travail, atmosphère en classe, au bureau ou à l'atelier. Nous aimons tous être soutenus quand la responsabilité nous incombe. Soyons par conséquent d'inconditionnels encourageurs chaque fois que c'est possible. Des multitudes de responsables en tout domaine travaillent en gémissant, s'usent et disparaissent avant l'heure, à cause d'une opposition maladive, stérile, démoniaque. Le respect des autres, le zèle dans le service, la maîtrise de soi, la disponibilité et tant d'autres choses font la différence entre une vie de lumière ou de ténèbres. La nouvelle alliance, par la voix de Jean-Baptiste et de Zacharie, nous annonce une vie de victoire sur le péché. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. En effet, Dieu avait fait serment à Abraham, notre ancêtre, de nous libérer du pouvoir des ennemis et de nous permettre ainsi de le servir sans peur pour que nous soyons saints et justes devant lui tous les jours de notre vie. Jean 1, verset 29, Luc 1, verset 73 et 75. La repentance, la réparation et la marche dans la sainteté sont la seule voie satisfaisante face au péché et son cortège de victimes. Les gens sans foi ni loi supporteront le malheur que les hommes honnêtes et droits n'auront pas à subir. Proverbe 21, verset 18. Les épreuves qui viennent du monde. La Bible emploie le mot « monde » avec des définitions distinctes. Pour mieux cerner celles qui nous concernent, il est utile de préciser qu'il ne s'agit pas de l'univers, le cosmos, les cieux et la terre qui appartiennent à son Créateur, de l'humanité que Dieu aime et voudrait sauver, du temps présent et à venir. Psaume 24, verset 1, Jean 3, verset 16, Matthieu 12, verset 32. Le monde dont nous parlons émane du royaume des ténèbres. C'est une mentalité corrompue, une culture dégénérée qui infecte et squatte, sans demander d'autorisation, tout ce qui entre en contact avec elle. Tout ce qui fait partie du monde, les mauvais désirs de notre humaine nature, la soif de voir et de posséder ce qui attire nos yeux, ainsi que l'orgueil inspiré par la richesse et la puissance, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. 1 Jean 2, verset 16. Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Proverbe 26, verset 17. Même si ce monde-là se concentre parfois plus à un endroit qu'à un autre, lieu de débauche, art perverti, temple sacré, il n'est pas matériel. Il se glisse dans les conversations, les regards, les choix, les actions, et en premier lieu dans le cœur de l'homme. C'est ainsi que l'apôtre Paul pouvait voir des conversions au cœur de l'Aréopage d'Athènes. Acte 17, versets 19 à 34. Colline consacrée au dieu de la guerre est couronnée de plusieurs autels, et qu'un pharisien pouvait être animé de pensées mondaines debout dans le temple de Jérusalem. Luc 18, 10 à 14. Quand les chrétiens confondent ces définitions, les conséquences qui en résultent peuvent être néfastes. Ainsi, pour certains, tout ce qui, physiquement, va au-delà de leur foyer ou du porche de leur chapelle, c'est le monde, sous-entendu territoire du diable. Étant, malgré cela, obligés de bénéficier de mille et un avantages provenant de leur planète et de la société, ils vivent une pénible dualité et finissent par se comporter comme des citoyens de seconde classe, timorés et insécurisés. Ils oublient que la Terre est au Seigneur, avec tout ce qui s'y trouve, que chaque molécule de l'univers a été créée et est maintenue par la parole de Dieu, et que Christ a reçu tout pouvoir sur la terre. À leurs yeux, ce n'est plus Dieu le propriétaire et Satan le voleur, mais presque le contraire. Cette compréhension erronée les rend complexés et embarrassés là où ils devraient être pleins d'assurance. Être victorieux du monde ne consiste pas à s'enfermer dans le sien, mais bien plutôt à rayonner en tout lieu et toutes circonstances d'une nouvelle mentalité, celle du royaume de Dieu. La parabole du fils prodigue illustre bien la séduction du monde. Nous verrons que son frère aîné, bien que vivant chez son père, est, lui aussi, animé non de l'Esprit de Dieu, mais de celui du monde. Le fils cadet. Luc 15, verset 11 à 32. Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Ce jeune homme pense probablement que l'argent, les voyages, les copains, le plaisir, c'est cela la liberté. Le père, qui représente Dieu, lui paraît trop vieux. Il veut jouir de l'héritage tout de suite et sans lui. Comme quelqu'un l'a souligné, quand le diable va à la pêche, il utilise de bons appâts. Au début, il sait récompenser ceux qui le suivent. C'est pour cela qu'il a du succès et que tant de gens sont séduits. En voici une illustration. Un paysan irlandais avait engraissé un cochon. Celui-ci était finalement devenu si lourd que son transport à l'abattoir posait problème. L'éleveur ouvrit alors l'enclos, puis, tout en marchant, un sac de haricots à la main, il le jeta un à un devant le nez de l'animal. Ce dernier, grognant de contentement, avança jusqu'au lieu de sa mort. Si on le rejette, notre père ne se défend pas. Il reste silencieux. Il n'a pourtant ni arthrose, ni lumbago. Il ne boite pas et ne montre aucun signe de vieillesse. En fait, il est bien plus beau, plus rapide et plus costaud qu'un athlète. Bien entendu, il sait être solennel, mais il est en pleine forme. L'héritage qu'il nous donne, ce sont nos yeux, notre raison, nos sentiments, notre sexe, notre force. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des caroubes que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. La famine suit souvent la débauche de près. La fête et les copains se sont évaporés aussi vite que son argent. L'aventure s'est terminée dans l'impasse. S'est-il présenté comme comptable? On l'a refusé. Comme aide-forgeron? Il n'y avait plus pas de place. Même chez les porteurs, il n'y avait plus d'embauche. Finalement, un type lui a dit, si tu veux travailler à la porcherie, tu peux rester ici. En ce lieu, il a découvert qu'on donnait à manger aux bêtes, mais pas à lui. Pour la première fois, il a fait l'expérience amère du rejet et du mépris. Quand on renie son véritable père, on se renie soi-même. Progressivement, en s'éloignant de Dieu, notre pensée est faussée, notre conscience déraille, notre volonté ne réagit plus. On ne fait plus ce qu'on voudrait faire, mais l'on fait ce qu'on ne voudrait pas faire. N'avoir rien à soi, rien sur la terre, rien au ciel, c'est le désespoir. On en vient à se détester, à vouloir changer de peau et tout recommencer. On aimerait être un oiseau pour échapper à nos barreaux, une vipère pour se venger des hommes, ou un mouton pour vivre en paix. Quant au fils cadet, pour ne pas mourir de faim, il aurait préféré être un pourceau. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. La faim a commencé par l'estomac, puis elle est montée jusqu'à son cœur. Peut-être a-t-il prié pour recevoir des caroubes, mais Dieu ne voulait pas changer sa nourriture, il voulait changer sa vie. En gardant les cochons, il a maintenant tout le temps de réfléchir. Le monde l'a séduit, trompé. Il est affamé, isolé, ignoré. Il se rend compte que même le statut de serviteur dans la maison de son père est bien meilleur que son errance vide et froide. Dans les maisons d'accueil que Jeunesse en mission avait ouvertes sur la route de la drogue, il était bien plus facile d'aider ceux qui revenaient de Katmandou que ceux qui s'y rendaient. La jungle du chacun pour soi, la maladie ou le fait de s'être fait dévaliser par un ami d'enfance avait eu raison de l'attrait du paradis artificiel. Rentrer en soi-même, c'est oser faire le point, oser se regarder en face. On ne peut prétendre chercher la vérité sans le faire. Certains préfèrent le suicide, le chantage, le vandalisme, la défense. Il faut plus de courage pour avouer ses fautes que pour se justifier, plus de courage pour changer que pour se laisser aller, plus de courage pour enfanter que pour avorter. En méditant sur son sort, il réalise tout cela et probablement aussi qu'il ne se connaît pas lui-même. Mais moi je te connais, murmure la voix de l'esprit. Tu as besoin de sécurité, tu as joué au dur, mais tu as peur à l'intérieur. Tu as besoin de discipline. En voulant vivre sans loi, tu es devenu ton propre tyran. Tu as besoin d'affection. La convoitise est égoïste et sans âme. Elle t'a laissé un goût amer. Tu as connu le langage du fric, mais tu as besoin d'amitié, tendre et gratuite. Peut-être avait-il payé dans l'espoir de trouver l'amour, mais sa faim de tendresse n'a pas été assouvie. Après une terrible lutte contre son orgueil, sa décision est prise. Elle va le sauver. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Ce jeune homme a fait trois choses. Il a pris une décision radicale. Il est allé vers son père. Il a confessé sa faute. Le père a aperçu un homme au loin. Peut-être ne l'a-t-il pas identifié de suite. Il était si maigre, et ses habits en guenilles n'étaient plus ceux qu'il connaissait. Mais il a reconnu sa démarche et s'est mis à courir à sa rencontre. Ses bras solides l'ont entouré, ses larmes ont commencé à laver son visage. Dieu aimerait certainement dire à l'un de mes lecteurs, Je veux t'entourer de mes bras, je veux sécher tes larmes, je veux t'accueillir. C'est le bonheur d'être enfin à la maison et d'en savoir toute la valeur. Le père dit à ses serviteurs, Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Le père interrompt la confession de son fils. C'est le cœur qui compte. Vite, des habits neufs, une bague, des souliers, la fête. Ce n'est pas l'accueil d'un domestique, mais d'un fils. Le Dieu de l'univers veut nous sortir des griffes du monde, nous adopter, nous laver intérieurement, nous donner la force d'aimer et l'assurance d'une vie nouvelle éternelle. Le fils aîné. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, Ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Le fils aîné restait à la ferme familiale et aux champs. Il y travaille durement. Mais ce jour-là, une crise se prépare. Quant à son retour, il apprend la raison des bruits de fête qui lui parviennent. Il est écœuré. Son père sortit et le pria d'entrer. Parfois Dieu prie. Que prie-t-il, nous? Il n'utilise pas sa toute-puissance pour nous obliger, car son royaume n'est pas une dictature, mais il peut mesurer la différence entre une vie avec ou sans lui. C'est pourquoi il nous invite à entrer. Choisis la vie, choisis la grâce, choisis l'amour et le pardon. Nous n'avons jamais entendu quelqu'un accepter son invitation pour dire ensuite, Oh, si seulement j'avais passé encore une année ou deux dehors, c'est dommage que je me sois converti si rapidement. Mais par contre, nous entendons souvent, Si seulement j'avais compris plus vite, si seulement je n'avais pas gaspillé tout ce temps. Mais il répondit à son père, Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. L'aîné ne veut pas entrer. Il ne peut pas entrer. Pourquoi? Parce que cette fête, spontanée, gratuite, joyeuse, ne colle pas du tout avec sa vision de l'existence. Pour lui, la vie, chrétienne, est dure, sombre, solennelle, religieuse. Il avait espéré gagner le ciel à la force du poignet. Il n'a pas osé suivre les cadets, peut-être par crainte, par sagesse ou par intérêt, mais l'attrait du monde l'habite et de ce fait, il n'a pas non plus joui de sa position de fils. Que deviennent ces années de travail acharné pour mériter un chevreau, si son vaurien de frère reçoit un tel accueil? La gratuité de Dieu le désécurise complètement. Son cœur à lui est plein de calculs. Il se compare et compte les péchés de son frère. Il est jaloux, frustré, déboussolé. Pourquoi ce paria, ce rebelle est-il revenu? Il ne lui pardonne pas. S'il est là, je ne veux pas entrer. Il est tout entier animé par l'esprit du monde. Jalousie, envie, orgueil. Un employé loyal, par rapport à un collègue infidèle, serait légitimement indigné de cette situation, mais pas un frère aîné qui voit son petit frère revenir à la maison. Combien de communautés chrétiennes tombent dans ce travers? Combien de familles ou de couples travaillent pour le Père, mais entretiennent des relations fondées sur les valeurs de ce Fils? Mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. La réponse du Père est aussi brève que profonde. Elle contient deux vérités qu'il nous faut saisir à tout prix si nous voulons vaincre l'esprit du monde. Il lui enseigne ce qu'il est, mon enfant, et ce qu'il a. Tout ce que j'ai est à toi. À celui qui est proche de lui, mais encore animé de l'esprit du monde, Dieu dit les deux choses les plus importantes qui soient. Tu es mon enfant, tu as tout ce que j'ai. Le monde semble avoir prise sur nous quand nous ne savons pas qui nous sommes et ce que nous possédons, ou quand nous en doutons. Il faut toute la persuasion du Saint-Esprit pour que ce changement de mentalité s'enracine dans nos pensées, puis dans nos actions quotidiennes. En voici une illustration. Un fou était persuadé qu'il était mort. Ses amis et ses parents tentèrent de le convaincre du contraire, sans aucun résultat. Il était certain qu'il était mort. On l'envoya alors chez le meilleur psychiatre de la ville. Celui-ci s'employa à inculquer au jeune malade une seule et unique vérité. Les morts ne saignent pas. Après 6 mois de traitement, son patient lui déclara: Soit, j'ai compris, les morts ne saignent pas. Le docteur appela prestement une infirmière qui, munie d'une aiguille, piqua le doigt du fou. Une goutte de sang se mit à couler le long de son doigt. Celui-ci s'exclama: Tiens, les morts saignent quand même. C'est ce qui se passe dans notre récit. Le fils aîné ne comprend pas qui il est. Il cherche à gagner une faveur, un amour, une bénédiction, un droit qu'il possède déjà. Il vit avec les valeurs d'un domestique, mériter et gagner, au lieu de recevoir et donner. Dieu a ce problème avec 10 millions de chrétiens aujourd'hui. Ceux-ci se disputent, se comparent, se divisent et se créent une vie pleine d'épreuves, parfaitement inutiles. Ils ne sont pas sûrs d'être aimés gratuitement comme fils ou fille et cherchent désespérément à mériter ce statut. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. 1 Jean 5, verset 4. La foi dans ce que nous sommes et ce que nous avons. Les épreuves qui viennent du diable. Satan, père du mensonge. Le péché, en l'occurrence le mensonge, est apparu dans l'univers pour la première fois quand Lucifer a voulu prendre la place de Dieu. Par cette tentative de coup d'État, il est devenu le père, le géniteur, la source du mensonge. Dieu n'a pas défendu son trône parce qu'il serait vindicatif ou jaloux. Dieu est humble, mais il est aussi juste et sage. Et lui, l'incréé, le seul vrai Dieu, n'allait pas laisser l'univers chavirer pour le caprice d'une créature, quelle qu'elle soit. Le péché n'est donc pas une petite graine que le Créateur aurait placée secrètement dans le cœur de Lucifer ou dans celui de nos premiers parents. C'est un choix moral, créé de toutes pièces, par un ou plusieurs êtres libres. Un être libre est parfait, précisément à cause de ses qualifications, peut désobéir. La liberté de choix donne sa valeur à l'obéissance, un acte téléguidé qui n'est pas de l'obéissance, mais une cause à effet. Puis à l'amitié et à l'amour. La désobéissance n'a nullement besoin d'exister pour cela. Bien qu'invisible, Satan et ses démons sont actifs. La Bible nous avertit que non seulement ils mentent, mais aussi qu'ils rusent, se déguisent, excitent, insinuent, agitent, tentent, trompent, empêchent, volent, tiennent liés, dominent, accusent, jettent en prison, sèment l'ivraie et enlèvent la bonne semence, produisent miracles, signes et prodiges, mensongers, pêchent, mettent à mort et assassinent. Bien que limités en nombre, en connaissance, en pouvoir, et n'étant en aucun cas omniprésents, les dégâts qu'ils produisent sont considérables, car il est infiniment plus facile en tout domaine de saccager que de construire. On le comprend mieux en considérant, par exemple, qu'il a fallu des décennies à des bâtisseurs nombreux et doués pour ériger une cathédrale, alors qu'un seul individu désaxé pourrait en un instant la faire exploser. De même, n'importe quel malfrat peut poignarder un cœur, alors que seuls les chirurgiens de pointe peuvent le réparer ou le transplanter. L'aventure extrême de Job. Quatre messagers arrivent un jour chez Job pour lui annoncer que des pillards ont passé au fil de l'épée ses serviteurs et volé la totalité de ses chameaux et bœufs. Simultanément, mais à d'autres endroits, la foudre a consumé gardiens et moutons, alors qu'un ouragan a frappé la maison de son fils aîné. Non seulement celui-ci a trouvé la mort, mais également tous ses frères et sœurs réunis chez lui ce jour-là. Après avoir ainsi perdu fils, filles, serviteurs et troupeaux, Job se prosterne et prononce une phrase qui traversera les millénaires. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Conformément à Job, chapitre 1. Est-ce pour autant la fin de ces calamités? Non, Satan le frappera encore d'une terrible maladie. Sa femme, seule rescapée, lui lance alors: Maudit Dieu, et meurt! Quel conseil! Mais Job, du fond de la détresse, restera ferme dans sa foi. Il sera finalement délivré et comblé par son Dieu. Jésus nous dit: Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jean 10, verset 10. Beaucoup d'êtres humains, sans vivre la violence des épreuves de Job, se sentent volés. D'autres perdent peu à peu leur vie, égorgés. D'autres encore ressemblent à une épave, détruits. Pourquoi? Parce que quelqu'un les hait. L'apôtre Paul a écrit ceci: Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre, ni contre de simples ennemis mortels, mais contre les puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique, contre les dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde, contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles, véritables agents du quartier général du mal. Éphésiens 6, verset 12. Ceux qui ignorent ce combat, le refusent ou encore demandent à Dieu de faire ce qu'il leur incombe, se rendent plus vulnérables. Satan, un voleur. Satan, qui signifie adversaire, est un voleur. Qu'essaie-t-il de voler? La liste est longue. Il vole des multitudes de personnes par les guerres, les déportations, les cataclysmes. De manière plus personnelle, il cherche à voler l'estime que nous avons de nous-mêmes, notre jeunesse, notre courage, notre joie et nos buts. Il tente de voler nos enfants par l'avortement, la révolte ou la drogue. Il vole parfois nos parents par le divorce. Il tente de voler nos amitiés, la beauté du mariage dans son intimité, ses rêves, son rayonnement. Il essaye de voler notre repos, notre sommeil, notre carrière, notre position sociale, notre salaire et nos biens. Il cherche à voler notre réputation par la critique, la médisance, la calomnie, à détruire nos convictions en nous susurrant: Dieu a-t-il réellement dit? Dieu t'aime-t-il vraiment? Le diable vole notre paix. Il nous culpabilise et nous accuse nuit et jour. Satan, un destructeur. Il attaque notre corps par la maladie, l'oppression, les tentations de toutes sortes. Il attaque aussi nos proches dans leur santé, afin de nous freiner dans notre marche avec Dieu. Jésus est notre véritable allié, celui qui nous veut du bien. Il a dit: Cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne? Luc 13, verset 16. Il attaque notre personnalité. Une femme avait entrepris un long voyage pour aller voir un gourou renommé. Faisant appel à ses pouvoirs démoniaques, il commença par lui raconter sa vie passée sans en avoir eu connaissance au préalable. Perplexe, elle crut qu'il s'arrêterait au moment présent, mais il continua son récit, lui décrivant également son avenir. Elle commença alors effectivement à vivre ce qui lui avait été annoncé, tout en prenant conscience qu'elle était devenue l'esclave de ses prédictions. La seule issue imaginable à ses yeux était le suicide. Alors qu'elle y songeait, elle entendit l'Évangile et se convertit. Dès cet instant, elle recouvra sa liberté, délaissant le chemin qui lui avait été prédit. Les démons ne connaissent pas l'avenir, mais puisqu'elle s'était adressée à eux, ils l'avaient liée dans leur plan maléfique. Satan cherche aussi, en semant le doute, à nous déstabiliser et à nous isoler des autres. Comment s'y prend-il? Il tente principalement de nous persuader que nous sommes au-dessus ou au-dessous d'eux. Si tout le monde était comme toi, tout irait tellement mieux. Ou alors, si les gens savaient qui tu es vraiment, ils te rejetteraient. L'Écriture tient un tout autre discours. Bien que tous différents et uniques, tels les membres d'un même corps, nous sommes pourtant tous utiles et d'une valeur inestimable. Quelle solution la Bible nous propose-t-elle? L'Écriture nous apprend que nous pouvons vivre en gardant la victoire face à Satan. Vous lisez probablement ces lignes avec attention. Vous avez décidé de mieux comprendre, de combattre celui qui rôde tel un lion menaçant, conformément à 1 Pierre 5, versets 8 à 9. C'est bien, mais c'est insuffisant. Un chasseur possédait une cabane dans la jungle. Après l'avoir cadenassée, il partit chasser le lion. Au détour d'un bosquet, il aperçut un fauve impressionnant. Il visa, tira et manqua son coup. La bête se retourna, rugit et se mit à le poursuivre. Presque mort de peur, l'homme parvint de justesse à s'échapper, mais le lion était à ses trousses. À bout de souffle, il parvint enfin à sa cabane. Il chercha frénétiquement sa clé, sans succès. Le fauve bondit sur le malheureux et le dévora là, devant la porte. Cet homme était presque sauvé, à deux doigts de la sécurité, et pourtant il est mort. Quelles sont donc les clés essentielles pour vaincre votre ennemi? Assurez-vous d'être avec le bon berger. Jésus dit, « Je suis le bon berger. » Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger, et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Jean 10, versets 11 à 12. Jésus souligne que, lorsque tout va bien, on ne voit pas de différence entre celui qui a un bon berger ou celui qui n'en a pas. C'est quand viennent les coups durs que nous constatons si nous sommes dans son troupeau ou dans celui du mercenaire. Aucune situation n'est désespérée avec le bon berger, mais elle peut l'être pour celui qui a confié sa vie au mercenaire. Jésus sait que nous sommes à certains égards comme de faibles brebis. Il sait combien les hommes et leur philosophie peuvent nous séduire, nous exploiter, abuser de nous et finalement ne se révéler d'aucun secours face au destructeur. Les religions, la connaissance, les pouvoirs humains sont comme autant de mercenaires face à Satan. Seul Christ en vous est plus grand que lui. Pourtant, pour qu'il habite votre vie, vous devez consciemment la lui donner. Changez de comportement. La Bible dit que ce qu'un homme sème, il le récoltera. On ne récolte pas du maïs en semant du riz. Si nous plantons l'honnêteté, le pardon, la douceur, ce sont aussi ces valeurs-là que nous récolterons. Il en sera de même pour la corruption, la haine et la violence. Le diable s'appuie sur notre péché pour détruire notre vie, notre société ou notre pays. Il cherche à lier des familles entières dans des pratiques abominables. La grand-mère fait de la sorcellerie. La mère fait de la sorcellerie. La fille fait de la sorcellerie. La petite fille fait de la sorcellerie. Il en est ainsi pour bien d'autres péchés que Satan cherche à enraciner dans nos maisons. Un jour, quelqu'un doit se lever, ce peut être vous, et changer de comportement. La Bible promet alors que Dieu bénira ceux qu'il aime et lui obéissent, jusqu'à la millième génération. Deutéronome 5, versets 9 à 10. Celui qui continue à pécher appartient au diable, car le diable a péché dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu précisément pour détruire les œuvres du diable. 1 Jean 3, verset 8. Exercez votre autorité et utilisez l'arme de la prière. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Matthieu 18, verset 18. Jacques, chapitre 4, verset 7. Marc 16, verset 17. Exercez votre autorité et baignez toute votre vie dans la prière. Téléphoner aux hommes coûte cher. De plus, bien souvent, cela sonne occupé, personne ne répond. Le numéro n'est pas le bon, ou c'est un répondeur automatique qui vous parle. Mais téléphoner au roi des rois est gratuite et son téléphone n'est jamais occupé. Il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Psaume 121, verset 4. Mettez votre foi dans la parole que Dieu prononce. Un soir, une petite fille se tenait à l'étage, pleurant parce qu'elle ne savait pas comment descendre vers son papa. Celui-ci lui dit, « Je suis là, je vais te prendre dans mes bras, saute. » Mais en bas, il faisait noir. L'enfant répondit, « Je ne te vois pas. » Le papa reprit, « Moi, je te vois, saute. » Elle le fit et atterrit dans les bras de son père. La foi est la ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Quand Dieu dit quelque chose, il le tient. Tu as été pour moi un sûr protecteur, une tour fortifiée face à l'ennemi. Oui, le Seigneur te gardera de ton départ jusqu'à ton arrivée, dès maintenant et toujours. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Cesse-t-elle d'aimer l'enfant qu'elle a porté? À supposer qu'elle l'oublie, moi je ne t'oublie pas. Car moi, le Seigneur, je sais bien quel projet je forme pour vous, et je vous l'affirme, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir à espérer. Si vous venez alors m'appeler et me prier, je vous écouterai. Si vous vous tournez vers moi, vous me retrouverez. Le Dieu de la paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Psaume 61, verset 4. 121, verset 8. Ésaïe 49, verset 15. Jérémie 29, verset 11 à 13. Romains 16, verset 20. Les épreuves qui viennent des circonstances. David et Goliath. 1 Samuel 17, 1 à 48. Dans ce récit, les armées des Philistins et l'armée d'Israël se font face de chaque côté d'un endroit appelé la vallée du Térébinthe. Goliath, soldat redoutable, mesurant près de 3 mètres, s'avance et propose aux Israélites un combat singulier. « Je suis un Philistin, vous êtes des esclaves de Saül. Choisissez parmi vous un homme qui vienne me combattre. S'il peut me vaincre et me tuer, nous serons vos esclaves. Mais si c'est moi qui peux le vaincre et le tuer, c'est vous qui serez nos esclaves. » Ces quelques mots ont un pouvoir dévastateur. Le roi Saül et toute son armée sont écrasés de terreur. Goliath ne craint pas la répétition, puisqu'il va renouveler son scénario matin et soir durant 40 jours. Pour Israël, ces circonstances sont épouvantables. Pourquoi? Elles paralysent des milliers d'hommes qui ne travaillent plus et sont absents de leur famille. Elles minent chaque jour davantage les nerfs et la santé de l'armée. Elles humilient et terrorisent le peuple tout entier. Les paroles du géant en sont à l'origine. Elles sont mensongères, insultantes, angoissantes, remplies de haine. Malheureusement, le roi Saül et son armée, par leur mutisme, semblent les accepter. L'ennemi dicte ainsi ses conditions et fixe les règles du jeu sans que l'armée de Dieu, obnubilée par les circonstances, en prenne véritablement conscience. N'aurait-elle pas pu, comme maintes fois par le passé, chercher la pensée prophétique de son Dieu, obéir à sa parole, suivre ses stratégies? Si nous regardons nos circonstances par l'objectif que l'ennemi nous tend, nous serons à coup sûr pétrifiés. Ses intentions ne changent pas. Je vais te tuer ou faire de toi mon esclave. Loin du champ de bataille, un jeune berger nommé David prend soin de ses moutons. Ses trois frères aînés, ont été enrôlés par Saül, et Jessé, leur père, l'envoie prendre de leurs nouvelles. Chargé de victuailles, David les rejoint au front. Pendant qu'ils conversent, Goliath s'avance et répète son défi habituel. Toute l'armée recule devant lui. David questionne les soldats sur le sujet et s'exclame. « Qui est donc ce Philistin païen qui ose insulter l'armée du Dieu vivant ?» Son frère aîné le traite de prétentieux et de vaurien. David lui tourne le dos et poursuit son investigation. Le roi lui-même finit par entendre parler de l'intérêt du jeune berger pour cette affaire et le fait aussitôt venir à lui. David lui dit, « Majesté, personne ne doit perdre courage à cause de ce Philistin. J'irai, moi, me battre avec lui. » Saül essaye de l'en dissuader, soulignant qu'un enfant ne peut se battre contre un tel géant. David répond, « Majesté, quand je garde les moutons de mon père, si un lion ou un ours vient et emporte un mouton du troupeau, je le poursuis, je le frappe et j'arrache la victime de sa gueule. S'il se dresse contre moi, je le saisis à la gorge et je le frappe à mort. C'est ainsi que j'ai tué des lions et des ours. Eh bien, je ferai subir le même sort à ce Philistin païen, puisqu'il a insulté l'armée du Dieu vivant. Le Seigneur qui m'a protégé des griffes du lion et de l'ours saura aussi me protéger des attaques de ce Philistin. » David est venu avec la fraîcheur de sa jeunesse et de son amitié avec Dieu. Ses paroles sont plus belles qu'un coin de ciel bleu au sein de la tourmente. Elles sont vraies, elles rétablissent l'honneur de l'armée. Elles sont enthousiasmantes parce que pleines d'espérance. Elles expriment prophétiquement ce que les soldats n'auraient même pas osé rêver. Goliath tué, les armées ennemies en fuite et celles d'Israël honorées et victorieuses. Saül lui donne son accord et lui propose son propre équipement militaire. Mais David, n'y étant pas habitué, y renonce, préférant affronter le géant muni de Saint-Pierre et de sa fronde. Il s'avance vers Goliath qui, précédé de son porteur de bouclier, vient également à sa rencontre. Le Philistin n'éprouve que du mépris pour le jeune homme, le maudit par tous ses dieux et ajoute « Viens ici, que je donne ta chair en nourriture aux oiseaux et aux bêtes sauvages. » « Toi, répond David, tu viens contre moi avec une épée, un javelot et une lance. Moi, je viens armé du nom du Seigneur, le Dieu des troupes d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui même, le Seigneur te livrera à mon pouvoir. Je vais te tuer et te couper la tête. Aujourd'hui même, je donnerai les cadavres des soldats philistins en nourriture aux oiseaux et aux bêtes sauvages. Alors tous les peuples sauront qu'Israël a un Dieu, et toute la communauté d'Israël saura que le Seigneur n'a pas besoin d'épée ni de javelot pour donner la victoire. Il est maître de cette guerre, et il va vous livrer en notre pouvoir. » Goliath se met en marche. David, lui, court à sa rencontre, prend une pierre dans son sac et la lance au moyen de sa fronde. Comme un évangéliste le disait, c'est le premier missile téléguidé de l'histoire. Il atteint le géant entre ses deux clignoteurs. La pierre s'enfonce dans le front de l'homme qui s'écroule face contre terre. Les épreuves produites par les circonstances vont toujours se dresser sur notre chemin, comme autant de géants menaçants. Si nous les comparons à nous-mêmes et comptons seulement sur nos capacités pour les affronter, le découragement et la crainte risquent de nous tenir en échec 40 jours ou plus. Si par contre nous les comparons à notre Dieu, elles retrouveront leur vraie dimension. Nous les affronterons alors, non avec un javelot et un bouclier, mais revêtus du nom de l'Éternel des armées. Quelles sont ici les étapes à retenir? David discerne l'esprit qui règne par les stratagèmes maléfiques de Goliath. Il s'en indigne ouvertement. Il se porte volontaire pour relever le défi. Il se fonde sur les leçons que Dieu lui a apprises dans les circonstances passées. Il prononce des paroles prophétiques pleines de foi. Il agit en conséquence et reçoit de son Dieu les moyens de les accomplir. Le géant terrassé, les circonstances sont métamorphosées. Conclusion. Peut-on entièrement éviter les épreuves? Non. Vous aurez à souffrir dans le monde. Tous ceux qui veulent mener une vie fidèle à Dieu seront persécutés. Jean 16, verset 33. 2 Timothée 3, verset 12. Peut-on atténuer les épreuves? Oui. Des centaines de passages bibliques nous en montrent le chemin. Celui qui craint Dieu trouve une issue en toute situation. Ecclésiaste 7, verset 18. L'honnêteté du juste lui rend la vie plus facile. Le méchant se perd à cause de sa méchanceté. Proverbe 11, verset 5. Puisque tu as gardé mon ordre d'être persévérant, moi aussi je te garderai de la période de malheur qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Apocalypse 3, verset 10. Peut-on surmonter les épreuves? Avec Christ, oui. Les héros de la foi qui nous ont précédés ont surmonté la peur, un avenir bouché, la guerre, l'occupation, les catastrophes, la stérilité, l'esclavage, la maladie, le jugement et même la mort. Paul, face à une Europe païenne et barbare, a supporté le fouet, la lapidation, les calomnies, les dangers sur mer et sur terre, la privation de sommeil, la faim et le froid. Ces épreuves surmontées par amour pour l'Évangile ont permis une récolte incalculable de bénédictions dont vous et moi jouissons à cet instant. Plus proche de nous, frère André, face à l'ombre marxiste athée qui couvrait plus du tiers de notre planète, avec comme fruit des dizaines de millions de morts, ses innombrables goulags et une peur omniprésente, s'est levé, entraînant à sa suite un fleuve d'ouvriers, d'intercesseurs, de Bibles, qui ont contribué à rendre la liberté à la plupart de ces nations. Dans toute épreuve, personnelle ou collective, soyons de ceux qui imitent la foi et le courage de nos prédécesseurs.